Monsieur le délégué du souvenir napoléonien, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir et un honneur d'accueillir notre collègue Jacques-Olivier Boudon. C'est un spécialiste reconnu de l'épopée napoléonienne qui a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages sur la période consulaire et impériale, qui est, on vous l'a rappelé, un spécialiste des questions religieuses, des élites religieuse et qui a publié un certain nombre d'ouvrages, notamment récemment, effectivement, le fameux ouvrage sur la campagne de Russie, hein, 1812, et maintenant, bien évidemment, en cette année du bicentenaire, la campagne de France, cette campagne donc qui marque la fin provisoire de l'aventure napoléonienne. Alors je vais avoir donc, je vais vous poser un certain nombre de questions sur les grands faits marquants de cette campagne et par la suite, l'auditoire pourra également vous poser quelques questions. Alors, après finalement plusieurs années de domination de l'Europe, la France connaît une situation difficile, dramatique. À la fin de l'année 1813, au début de l'année 1814, est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau, une présentation un peu de cette France du début de 1814?
Bonsoir, chers collègues, bonsoir, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier Stéphane Barry et la librairie Mola de leur invitation. Je suis très heureux d'être ici ce soir, d'autant plus que cela n'a pas été précisé, mais vous le trouveriez sur des biographies me concernant. Je suis natif de Bordeaux, donc je reviens avec plaisir en ces lieux qui, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ont été particulièrement marqués par la période napoléonienne et par les événements qui vont se dérouler en 1814. Et d'une certaine manière, Bordeaux est un poste d'observation assez intéressant de ce qui se trame en ce début de l'année 1814. Vous y avez fait allusion, j'ai consacré un ouvrage à la campagne de Russie et on peut dire que ce qui va se passer en 1814 est déjà en germe dans les événements qui se sont déroulés en 1812 en Russie, dans la mesure où, comme vous le savez, Napoléon parti conquérant pour s'emparer ou en tout cas pour faire plier le tsar Alexandre a dû revenir piteusement dans ses foyers avec une poignée d'hommes sur les 5 à 600 000 qui avaient franchi le Niémen en juin 1812. Alors certes, les défaites futures, celles de la campagne de Saxe et notamment celle de Leipzig, ne sont pas complètement inscrites dans la campagne de Russie. Il y a eu une reprise sur le plan militaire, une reconstruction de l'armée de Napoléon au début de 1813 et de nouvelles victoires qui ont été remportées par ces armées. Mais on peut dire qu'en 1812, un fil s'est cassé et que 1814 est l'héritier de cette situation. Sur le plan militaire, parce qu'il y a eu un affaiblissement considérable des forces françaises, et puis sur le plan diplomatique, et je crois que c'est le plus important à relever, sur le plan diplomatique, les défaites de Napoléon, notamment en Russie, ont conduit l'Europe à prendre conscience qu'elle pouvait vaincre Napoléon. On en reparlera sans doute, mais en 1814, pour la première fois depuis 20 ans, une coalition réunit l'ensemble des puissances européennes. Alors la France, à ce moment-là, dans quel état se trouve-t-elle? La France est depuis 20 ans, plus de 20 ans, en guerre. La guerre a commencé en avril 1792, lorsque Louis XVI déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Cela fait donc 22 ans que l'Europe est en guerre. Mais de côté la parenthèse 1802-1803 au moment de la paix d'Amiens, qui n'a quasiment pas compté dans cette grande période des guerres, des French Wars, comme disent les Britanniques. 22 ans de guerre, et depuis 20 ans, la France et les Français concevaient la guerre comme une guerre que l'on exporte. La guerre se déroulait ailleurs, sur d'autres sols. Elle se traduisait par des conquêtes, elle se traduisait par une carte de l'Europe où l'on pouvait faire bouger ses troupes très loin, jusqu'à Moscou, en Espagne, en Italie, les provinces illyriennes. La France, l'Empire de 1813, c'est encore un empire qui couvre une grande partie de l'Europe occidentale. Or, à la suite des défaites de 1813, à la suite de la défaite de Leipzig d'octobre 1813, l'Empire s'est réduit comme peau de chagrin. La France, l'Empire, ce n'est plus que la France, une partie de l'Italie, notamment le nord de l'Italie, théoriquement avec l'alliance du royaume de Naples, mais celle-ci va se disloquer au début de 1814. C'est encore la possession de la Belgique, mais pour le reste, l'ensemble a été perdu. L'Espagne, définitivement perdue en septembre 1813. L'Allemagne, qui a basculé par étapes dans la coalition et qui est définitivement perdue également. La Hollande, qui était française, qui s'est insurgée. Donc la situation de l'Europe est une situation qui est très défavorable aux Français, sur le plan évidemment diplomatique.
Alors vous avez évoqué une coalition qui se constituait, vous en avez évoqué quelques membres. Est-ce que vous pouvez nous brosser de manière plus précise un tableau de cette sixième coalition qui met un terme finalement aux grandes guerres de la Révolution et de l'Empire?
Alors, cette sixième coalition, je l'ai dit, elle comprend les grandes puissances européennes, les principales puissances européennes. C'est la première fois. Tout part de 1812, là encore, et de l'alliance qui s'était nouée entre la Russie et l'Angleterre, puisque l'Angleterre a soutenu la Russie au moment de la campagne de 1812, et avec un troisième partenaire qu'il ne faut pas oublier, qui est la Suède gouvernée par un Français, le maréchal Bernadotte, prince héritier de Suède, qui a choisi l'alliance russe en 1812 et qui est toujours présent du côté de la sixième coalition en 1814, même si Bernadotte, qui est à la tête de l'armée du Nord, se garde bien d'entrer sur le territoire français parce qu'il ne veut pas prendre part à la guerre qui se déroule contre ses compatriotes. Pour préserver l'avenir, il espère peut-être monter sur le trône de France. Et puis, il y a les pays qui étaient alliés de la France et qui, progressivement, ont changé de camp entre 1812 et 1814. Cela a été d'abord la Prusse, qui, après le désastre de Russie, a basculé dès mars 1813 dans la coalition qui est alors en train de se former. Ce sera surtout en août 1813 l'Autriche, qui était doublement liée à la France par des traités, bien sûr, le traité de Vienne de 1809, mais aussi par une alliance matrimoniale. Le mariage de Marie-Louise et de Napoléon en 1810 a fait de Napoléon le gendre de l'empereur d'Autriche. Et cet empereur d'Autriche, François Ier, est aussi le grand-père de l'héritier du trône de France, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'attitude des Autrichiens en 1813-1814. Mais les Autrichiens vont rallier la sixième coalition et surtout apporter à cette sixième coalition une grande partie de l'armée coalisée, puisqu'ils disposent du plus gros contingent au sein de cette armée. Donc l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède, plus les États allemands qui vont progressivement entrer dans la coalition, la Bavière en particulier, le royaume de Wurtemberg. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, en janvier 1814, le royaume de Naples, pourtant gouverné par la sœur et le beau-frère de Napoléon, autrement dit Murat, le royaume de Naples fait à son tour le choix d'entrer dans la sixième coalition parce que Murat et Caroline se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune chance de conserver leur royaume si Napoléon était vaincu, et ils pressentent qu'il va l'être. Ils préfèrent donc choisir l'alliance avec l'Autriche et l'Angleterre, en l'occurrence, et envisager non seulement de conserver leur trône, mais aussi d'étendre leur hégémonie sur le reste de l'Italie. Ce sera plus compliqué, c'est une autre histoire, mais j'en parle aussi quelque peu dans le livre.
Merci. Alors, une coalition, c'est une alliance diplomatique à but, en l'occurrence, militaire. Napoléon, on connaît bien sûr ses talents de stratège, mais il n'y a pas que la stratégie, il y a aussi bien sûr les effectifs, les forces en présence. Et la France, vous l'avez dit, est en guerre depuis 20 ans. Elle a payé un lourd tribut en hommes. Que peut-on dire du rapport de force qui s'établit à la fin 1813 et au début 1814? De quelles troupes, de quelle qualité, avec quel matériel Napoléon peut-il se battre, et en face de lui, de quelle force disposent les puissances coalisées?
Alors, pour répondre à cette question, je vais commencer par une formule célèbre de Napoléon, qui est évidemment un peu caricaturale, mais qui illustre bien l'état des forces côté français. Napoléon, à un moment donné, au moment où il part en campagne à la fin du mois de janvier, déclare J'ai 50 000 hommes, mais avec moi, cela fait 150 000. Manière de dire que sa présence seule peut galvaniser les troupes et faire basculer le rapport de force en sa faveur. Mais en même temps, il avoue qu'il n'a pas grand monde autour de lui et qu'il part au combat avec des forces relativement faibles. En fait, évidemment, il minimise les forces qu'il a à sa disposition, puisque au moment où la Restauration arrive, c'est-à-dire à la chute de Napoléon, on estime que l'armée française réunit environ 500 000 hommes. Alors comment passe-t-on de 50 000 autour de Napoléon à 500 000 ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des effectifs qui sont dispersés. Il y a l'armée principale qui va combattre autour de Napoléon, et puis il y a des effectifs un peu partout en Europe. D'abord, il a laissé des milliers d'hommes dans les places fortes en Allemagne, en Hollande, en Italie, dans les provinces sibériennes à la fin de 1813. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui vont manquer, dira-t-on, au moment de l'assaut final, au moment du choc final contre les coalisés. L'exemple le plus fameux, c'est celui de Hambourg, où Davout s'est enfermé et il y restera jusqu'au mois de mai 1814. Alors bien sûr, il maintient sur place des troupes alliées qui ne peuvent pas non plus arriver en France, mais enfin, il n'est pas actif dans la campagne. C'est le premier point. Il y a les troupes, on en reparlera sans doute, qui sont dans le sud de la France, derrière Soult, au Pays Basque au début de 1814, mais aussi derrière Suchet en Catalogne, pour l'armée de Soult au début de 1814, fin 1813-1814, c'est un peu plus de 50 000 hommes, ce qui n'est pas négligeable. Pour Suchet, c'est entre 25 et 30 000. Il y a les troupes qui sont autour d'Eugène de Beauharnais en Italie, dans le nord de l'Italie, environ également 50 000 hommes. Il y a des troupes en Belgique, il y a des troupes dans la région lyonnaise. Enfin bref, il y a des troupes extrêmement dispersées. Le problème, c'est que de toute manière, Napoléon ne pourrait pas réunir ses 500 000 hommes en un même bloc parce que la France est complètement encerclée et que s'il dégarnit un front, eh bien, c'est par là que les adversaires vont entrer. Du côté des coalisés, de la 6e coalition. Eh bien, on estime l'importance des troupes à environ 1 million d'hommes, donc à peu près le double, et on voit que le rapport de force est déjà défavorable pour Napoléon. Mais si l'on se situe sur le terrain d'action principal qui est l'est de la France, le rapport est de 1 à 3, voire dans certains cas de 1 à 4. Il y a plus de 200 000 hommes, 250 000 hommes qui vont converger sur la France en janvier 1814. Ces forces se décomposent en trois grandes armées. La principale, c'est l'armée dite de Bohême, l'armée commandée par le feldmaréchal autrichien Schwarzenberg, qui compte 150 000 hommes à peu près. C'est une armée composée de forces autrichiennes, mais aussi russes, qui est suivie en particulier par le tsar Alexandre et par son frère, le grand-duc Constantin. Il y a une deuxième armée d'un peu plus de 100 000 hommes qui est gouvernée, commandée par le Prussien Blücher, l'armée de Silésie. Et enfin, il y a une troisième armée que j'ai déjà évoquée, c'est l'armée dite du Nord, commandée par Bernadotte, qui n'envoie que deux corps en France, qui participeront à la fin de la campagne de 1814, Bernadotte lui-même restant en retrait. Donc au total, c'est environ 250 000 hommes qui déferlent sur la France à partir de janvier 1814. Et si vous voulez que peut-être que je dise un mot de l'organisation de cette campagne, finalement, elle est assez simple à comprendre côté des alliés. Ils ont envisagé d'entrer en masse par l'est de la France. Et pour éviter toutes les places fortes qui sont situées le long du Rhin et qui sont fortifiés avec des garnisons qui sont censées empêcher les alliés de passer, les Autrichiens de Schwarzenberg, les Austro-Russes, vont décider de passer par la Suisse, donc de rompre la neutralité suisse, et à partir de là, de se diriger et vers Paris et vers Lyon, divisant ainsi leurs forces pour pouvoir s'emparer d'une partie importante du territoire français. Et on le sait, mais peut-être y reviendra-t-on, Schwarzenberg est doublé en quelque sorte par Blücher, qui amorce son entrée sur le territoire par le Rhin, en franchissant le Rhin au début de janvier 1814, et les deux armées vont converger à partir de là vers Paris en un mouvement parallèle qui doit conduire avec... mais là, peut-être, je ne vais pas dévoiler tous les secrets de la campagne, avec un mouvement parallèle, mais pas tout à fait parallèle, parce que les deux chefs de guerre ne s'entendent pas parfaitement bien. C'est aussi une des raisons qui explique que Napoléon va pouvoir leur résister pendant 2 mois.
Et en ce qui concerne le matériel, l'artillerie
Alors, effectivement, Napoléon, en particulier, s'appuie sur... un matériel qui a été reconstitué depuis 1812, puisque, on le sait, au moment de la campagne de Russie, l'armée française a perdu l'essentiel de sa cavalerie et de son artillerie. Alors évidemment, il restait des pièces dans les autres terrains d'opération, mais on a évidemment commandé du matériel, on a commandé des fusils, et devant l'insuffisance de ce matériel, on fait appel à tout ce que l'on peut trouver, c'est-à-dire y compris des fusils de chasse qui vont pouvoir être réquisitionnés. Et donc le matériel, là aussi, sur le plan du matériel, le rapport de force est très favorable aux alliés, qui disposent d'une artillerie beaucoup plus puissante en termes de bouche à feu, et donc vont aussi jouer sur cet avantage. Puisque j'en suis à évoquer les forces, il faut quand même dire un mot, en particulier côté français, de la volonté de mobilisation générale qui est propre à Napoléon, qui s'appuie sur l'armée régulière, mais qui veut s'appuyer aussi sur des forces auxiliaires, pourrait-on dire, qui existent déjà. C'est le cas de la garde nationale, qui va être mobilisée pour être envoyée, d'abord pour maintenir l'ordre sur les arrières, mais qui va être aussi envoyée sur le terrain d'action pour participer au combat dans certains cas. C'est un premier point. Et puis, il y a l'autre dimension, c'est l'organisation des fameux corps francs, qui vise à, comme cela s'est fait en Espagne, comme cela s'est fait en Russie, et par ailleurs, c'était déjà une tradition qu'on retrouve dans d'autres conflits antérieurs. Donc l'idée, c'est de constituer des forces auxiliaires qui harcèlent les troupes sur leurs arrières, freinent leur communication, empêchent le ravitaillement et détruisent les petits corps séparés. Ce système a été... son efficacité a été mitigée, relativement efficace dans l'Est, où ces corps francs, ou dans la région lyonnaise, beaucoup moins, par exemple dans le Sud-Ouest, où le général Arispe, qui était chargé de les organiser, a eu beaucoup de mal à les recruter.
Oui. Alors parlons justement du Sud-Ouest, puisque vous l'évoquez, que nous sommes donc dans le Sud-Ouest. On est loin, bien sûr, des lieux d'affrontement, de bataille du Grand Bassin parisien, mais il y a quand même eu des opérations militaires dans notre région, qui ont d'ailleurs été rappelées à la fin de l'année dernière et au début de cette année par un certain nombre de commémorations, je pense au Pays Basque, évoquant donc les combats. Et c'était Soult, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui était chargé de la défense de cette partie de l'Empire. Et après l'épisode, le fâcheux épisode d'Orthez, Napoléon a écrit « Je ne conçois pas comment avec des troupes comme celle-là, le duc de Dalmatie peut être battu. » Alors, Soult s'est-il montré à la hauteur? S'est-il monté fin stratège, ou n'a-t-il pas pu utiliser ses troupes à bon escient?
Alors, là, on est déjà à un moment où la campagne de France au sens large, c'est-à-dire impliquant l'ensemble des terrains d'action, est avancée, puisqu'on est à la fin du mois de février 1814. Et Soult se trouve dans une position qui n'est guère confortable. Il faut rappeler que l'armée de Soult, donc l'armée qui arrive d'Espagne, combat sans discontinuer depuis des mois, voire des années, que depuis novembre 1813, elle est confrontée à l'invasion du territoire français. La France a été envahie en premier lieu par le Sud-Ouest, lorsque les troupes de Wellington franchissent la Bidassoa et s'approchent en direction de Bayonne, bloquées dans un premier temps sur la Nive par Soult et son armée. À ce moment-là, le rapport de force est très favorable aux Anglais. Alors, quand on dit les Anglais, il y a environ 45 à 50 000 Anglais, il y a environ 45 000 Espagnols, il y a des Portugais, donc plus de 100 000 hommes au total qui s'apprêtent, qui ont déjà pénétré sur le territoire français et qui s'apprêtent à prolonger leur effort en direction du nord. Avec cette particularité, on peut se dire, mais comment se fait-il que ces 100 000 hommes n'aient pas bousculé plus rapidement? On pourrait inverser la question que vous me posiez. Pourquoi ces plus de 100 000 hommes n'ont-ils pas bousculé Soult et ne sont-ils pas parvenus plus rapidement, finalement, à Bordeaux et dans le Nord? Eh bien, parce que les Anglais, d'abord, se méfient beaucoup de leurs alliés espagnols. Ils n'ont pas une confiance extraordinaire dans la capacité militaire des Espagnols. C'est un premier point. Et à l'inverse, ils sont très méfiants à l'égard des Français et à l'égard en particulier de la capacité des Français à se mobiliser, à rejouer ce qui s'est passé en l'an 2 avec le soulèvement général. Et l'appel à la mobilisation générale de Napoléon a des échos chez les Anglais. Et Wellington le dit clairement, il craint un soulèvement et il n'a pas envie d'embraser le pays. Les Anglais ne sont pas venus en France pour rallumer une révolution. Et donc ils avancent avec prudence. Cette prudence va servir Soult, qui dans un premier temps tient très bien le choc. Novembre, décembre, janvier 1814, les troupes de Soult sont parfaitement assises sur leur position et contiennent l'avancée des troupes anglaises. Plusieurs éléments vont intervenir. D'abord, les Anglais vont se mettre à avancer. Et puis surtout, Napoléon, pour constituer son armée, celle qui va combattre dans l'est de la France, dans le nord et dans l'est de la France, puise sur l'armée d'Espagne. On estime qu'environ 14 000 hommes sont prélevés sur l'armée d'Espagne pour aller constituer une partie de l'armée de Napoléon qui part en campagne à la fin de janvier 1814. Donc 14 000 sur 48 000, vous voyez, c'est un gros quart qui s'en va, presque un tiers qui est prélevé. Et donc, par définition, quand vous prélevez des troupes sur une armée, surtout des troupes qui sont très aguerries, les Espagnols, comme on les appelle, c'est-à-dire en fait les Français qui combattent en Espagne, sont parfaitement aguerris. Et d'ailleurs, Napoléon va les utiliser très rapidement et se satisfaire de leur capacité au combat dans la campagne dans l'Est. Donc ça, c'est un premier élément de réponse que l'on peut apporter. Affaiblissement aussi des troupes de Soult dans la mesure où il a perdu les contingents étrangers. Les Allemands qui ont déserté, et de toute manière ceux qui restent, on les laisse au repos, si je puis dire. Des Italiens qui ont été renvoyés en Italie. Donc cet affaiblissement se renforce. Pour revenir à Orthez et à ce qui se passe à partir d'Orthez, on peut dire que... on peut toujours, évidemment, Napoléon n'étant pas sur le terrain, il peut toujours dire qu'on pouvait faire mieux, sans doute. Mais ce qu'il faut remarquer tout de même, c'est que Soult, pendant toute cette campagne, n'a jamais démérité au sens où il a toujours résisté, il a toujours cherché, il ne s'est pas dérobé au combat, et la bataille d'Orthez en est un bel exemple. Il affronte les troupes de Wellington, mais il doit se rendre à l'évidence, il est submergé par le nombre des Anglo-Espagnols, et il préfère, à partir de là, conserver l'essentiel de ses troupes, c'est-à-dire ne pas être un jusqu'au boutiste et sauver donc son armée. C'est ce qu'il va faire en prenant la direction du Nord. Et ce que lui reproche finalement Napoléon à partir de ce moment-là, c'est d'avoir suivi un itinéraire qui le conduit de plus en plus vers l'Est et qui donc va l'amener à Toulouse, plutôt que d'avoir opéré un mouvement tournant, puisqu'à un moment donné, lorsqu'il part d'Orthez, il remonte par Sceaux de Navaille jusqu'à Saint-Sever, et à ce moment-là, il rebascule vers le sud-est, alors qu'il aurait tout à fait pu repartir en direction de l'ouest et bloquer. Bon, mais je pense que là, une carte n'est pas utile ici. Si j'étais à Paris, je la montrerais. Mais repartir en direction de l'ouest pour bloquer l'avancée des troupes du général Beresford, général anglais qui, au même moment, La bataille d'Orthès, c'est le 27 février, et au même moment, le 25 février, les Anglais ont réussi à faire sauter, comme on dit, le verrou de Bayonne, non pas à prendre la ville est toujours entre les mains des Français, mais ils la contournent. Ils la contournent, ils parviennent à franchir l'Adour que l'on avait essayé de rendre infranchissable en s'appuyant d'abord sur les importantes pluies qui sont tombées sur la région en janvier-février 1814. Et vous avez vu la situation récente de l'hiver 2014 et les débordements occasionnés par les crues. Vous pouvez imaginer ce qu'il en était deux siècles plus tôt, d'autant plus que l'on a rompu les digues pour donc favoriser, enfin plus exactement empêcher le franchissement de l'Adour. Mais grâce à leur marine, grâce à leur navire, à leur bateau, les Anglais ont réussi à faire franchir l'Adour et à donc à passer et à partir de là à se diriger vers le nord pour arriver jusqu'à Bordeaux le 12 mars 1814. Bon, pour revenir à la question que vous me posiez, Soult a choisi une stratégie qui est celle de laisser les Anglais finalement filer vers le nord pour concentrer ses forces plus à l'est en direction de Toulouse, avec dans l'idée de pouvoir réunir ses forces à celles de Suchet. C'est un peu compliqué, mais dans le même temps, Suchet, lui, a été obligé de rétrograder vers le nord et d'abandonner pour partie la Catalogne espagnole et se retrouve dans le sud de la France, du côté de Carcassonne. Donc la jonction est envisageable à partir de ce moment-là.
Alors vous évoquiez, à côté des troupes militaires, les corps francs, la garde nationale, et donc en quelque sorte le soutien de la population. Est-ce que Napoléon n'a peut-être pas exagéré, c'est pas un peu illusionné sur l'esprit, la volonté de résistance de la population qui était peut-être lassée par ces années de guerre que le pays avait connues depuis 1792. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de restituer l'état de l'opinion en ce printemps 1814? Parce que, bien évidemment, il existe souvent des rapports des autorités locales, mais elles savent toujours enrober la situation pour masquer, je dirais, des oppositions trop fortes.
Alors, il est certain que Napoléon a compté sur le soutien de la population. Il y a compté dans la mesure où il a lancé ce grand appel à la mobilisation générale, au soulèvement national, avec à l'esprit, je le disais il y a un instant, le souvenir de l'an 2, de la mobilisation, mais qui s'était faite sur un plan militaire par l'apport de forces à l'armée à ce moment-là, contre les adversaires. Et il faut se rappeler aussi qu'en 1793-94, la situation est différente. Le pays est par ailleurs divisé avec des foyers d'insurrection, notamment dans l'Ouest et en Vendée. Donc la situation n'est pas tout à fait comparable, même si Napoléon joue sur cette comparaison. Elle n'est pas comparable aussi parce qu'il y a 20 ans de guerre, d'efforts de guerre derrière les Français. Et en particulier, il y a un souvenir qui passe difficilement, il y a une épreuve qui passe difficilement, c'est la conscription. Vous savez que la conscription, c'est la levée d'hommes de 20 ans qui s'est mise en place à partir de 1798, qui dans un premier temps a été relativement tolérable. En moyenne, dans les années 1800-1805, on prélève 30% d'une classe d'âge. C'est-à-dire finalement que 70% ne partent pas à l'armée, ce sont les 30% qui tirent ce que l'on appelle un mauvais numéro. Mais on peut dire que c'est supportable, et d'autant mieux que cela finalement favorise le départ de jeunes de la campagne pour lesquels on n'avait pas nécessairement du travail à leur confier. Ça dépend des régions, ça il ne faut pas non plus généraliser. Ça permet aussi de drainer dans les campagnes de l'argent par le biais de l'achat de remplaçants, etc., et donc d'acquérir un petit lopin de terre. Bref, je ne dis pas que la conscription n'a que des avantages, mais la paysannerie, qui est la principale pourvoyeuse de bras sous l'Empire, y voit jusqu'à un certain point certains avantages. À partir de 1810, 1811 et 1812, la pression devient insupportable. À la fin de la période, on estime que 80% des classes d'âge sont mobilisées, et on va même revenir en arrière, c'est-à-dire prélever des hommes sur les classes antérieures, c'est-à-dire des jeunes gens qui pensaient avoir échappé au service et qui sont à nouveau réquisitionnés. Ce qui crée évidemment de fortes tensions, en particulier dans les régions comme celle où nous sommes, qui étaient très rétifs au service militaire. Louis Bergès a bien montré que dans l'Aquitaine, élargie, près de 50% des jeunes gens ne voulaient pas partir et étaient donc des réfractaires. Donc il y a ce sentiment. Et ce sentiment, il est exacerbé parce que depuis son retour de Russie en fin 1812, début 1813, jusqu'au début de la campagne de 1814, Napoléon a décrété la levée d'1 200 000 hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 200 000 hommes, ce que cela représente. Pour vous donner un autre chiffre, entre 1800 et 1814, le total des conscrits, c'est 2 millions d'hommes. C'est-à-dire que 60% sont prélevés dans les 15 mois qui précèdent la campagne de France. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce que sur ce 1 200 000 hommes dont on décrète la levée, 900 000 seulement arriveront à l'armée, seront encadrés. Les 300 000 autres sont restés tranquillement chez eux ou se sont évaporés dans la nature. C'est variable, encore, selon les régions. Bon, vous avez là un indice, déjà, de l'état de l'opinion publique. Quand il y a 300 000, un quart de conscrits qui ne partent pas à l'armée alors que le pays est en danger, ça prouve qu'il n'y a pas une véritable volonté de le défendre. C'est un premier élément. L'autre élément que l'on sait, c'est que les corps francs ont connu des succès mitigés. Alors évidemment, c'est toujours le problème du verre à moitié plein ou à moitié vide. Les historiens qui s'attachent et qui s'intéressent aux corps francs n'ont aucun mal à montrer qu'il y a eu un encadrement d'un certain nombre, parfois de plusieurs centaines d'hommes qui se sont mobilisés pour lutter contre l'invasion. Mais au total, ça ne représente tout de même pas des effectifs extrêmement considérables. Et puis enfin, il y a ce que l'on constate au fil des semaines de 1814 et particulièrement à la fin, c'est un très grand attentisme de la part de la population et on pourrait même dire une très grande lassitude, alors, qui est liée au problème de la conscription, mais qui est liée aussi à d'autres éléments, problèmes économiques, problème fiscal, la fiscalité ne cesse d'augmenter. Vous savez, quand on augmente les impôts, en général, il est rare que les gens applaudissent. Or, en 1814, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État parce que l'Empire s'étant réduit comme peau de chagrin, tous les pays qui étaient partie prenante de l'Empire et qui fournissaient des impôts n'en fournissent plus. Tout ce que l'on appelle le domaine extraordinaire, c'est-à-dire les prélèvements sur les pays conquis ou les pays vaincus, disparaît quasiment à partir de 1812, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait rétabli ce qu'on appelle les droits réunis, c'est-à-dire les droits indirects, les taxes, l'octroi par exemple, des impôts extrêmement impopulaires qui ne favorisent pas, à l'inverse, la popularité de Napoléon. Alors, il y a aussi évidemment le problème économique, parce qu'un pays qui est un pays envahi partiellement, c'est un pays où la machine économique s'arrête, où il n'y a plus de travail, en tout cas dans les manufactures. C'est un pays, encore une fois, qui est partiellement occupé, une partie du sud-ouest dès janvier-février. Tout l'est de la France est occupé à partir du mois de janvier, et cette occupation va varier dans les départements de la Marne, de l'Aube et même de l'Yonne. Donc c'est une situation économique qui est extrêmement délicate. La population, donc, on ne peut pas dire qu'elle soit farouchement attachée à défendre Napoléon, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y ait un soulèvement, à l'inverse, pour chasser Napoléon du pouvoir. À aucun moment, exception, ce n'est pas un soulèvement, c'est un ralliement des élites. Il y a l'exception bordelaise, il y a quelques mouvements ici ou là, il y a quelques tentatives de royalistes qui, encadrés par les chevaliers de la foi, ont essayé de soulever l'Ouest et le Sud-Ouest. Et le mouvement devait partir du côté de Rodez. Quelques centaines de royalistes se réunissent. La gendarmerie, car les institutions napoléoniennes ont continué à fonctionner, la gendarmerie est avertie du soulèvement. Quelques centaines de gendarmes arrivent et dispersent le mouvement et l'insurrection fait flop. Donc on ne peut pas dire à l'inverse qu'il y ait une volonté de se débarrasser de Napoléon par une prise d'armes. Donc je définirais cet état d'esprit de la population comme une grande lassitude, une lassitude qui va conduire finalement à laisser faire, et c'est ce qui explique ce qui va se produire dans les derniers mois, dans les dernières semaines de la campagne.
Mais alors, donc, vous avez beaucoup travaillé donc, sur la campagne dans la moitié nord du pays. Vous venez d'évoquer le cas de Bordeaux. Quel regard portez-vous alors sur les événements du sud-ouest, sur leur importance politique, le ralliement de Bordeaux?
Le ralliement de Bordeaux est sans doute beaucoup plus important que ne le pense à l'époque Napoléon. On pourrait dire que c'est un épiphénomène. Un maire qui arbore la cocarde blanche et signifie ainsi le ralliement de la ville à travers ses autorités aux Anglais et à la cause royaliste. Les deux, finalement, allant de pair, puisque le duc d'Angoulême est dans les bagages de Beresford. Alors, quelle est l'importance réelle de ce mouvement? Je crois que pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière à ce qui s'est passé, en particulier dans l'est de la France. Napoléon a été très attentif pendant les débuts de la campagne à faire en sorte qu'aucune manifestation royaliste ne soit tolérée. Il y a des précédents, en particulier lorsque les Français sont obligés de quitter Troyes en février 1814, il y a plusieurs jeunes gens royalistes qui vont se prononcer en faveur de Louis XVIII. Mais comme vous le savez, la campagne de France... Dans l'Est, c'est un jeu de yo-yo, les armées coalisées avancent, Napoléon arrive et elles sont obligées de régresser, et puis Napoléon se retire et les armées avancent, etc. C'est un jeu de va-et-vient qui va se développer pendant les mois de février, mars 1814. Et les malheureux qui avaient eu la mauvaise idée de se proclamer pour le roi, et notamment l'un d'entre eux, qui oublie de s'échapper et de quitter la région lorsque Napoléon revient, sera passé par les armes et sera donc fusillé. Et Napoléon est très clair, il ne veut pas que la contagion envahisse la population et que d'autres foyers de royalisme se déclarent. On sait alors que les membres de la famille de Louis XVIII, le duc d'Angoulême, le duc de Berry, donc ses neveux, leur père, le comte d'Artois, le futur Charles X, sont très présents et cherchent à venir et vont arriver sur le sol français pour jouer un rôle et favoriser la restauration des Bourbons. La situation des Bourbons à l'égard des alliés, à ce moment-là, est loin d'être simple. Les Bourbons vivent en Angleterre, donc qui sont exilés en Angleterre depuis 1808. Auparavant, Louis XVIII vivait dans l'Empire de Russie, mais il a été prié de quitter cet empire après la paix signée entre Napoléon et Alexandre. Donc les Anglais, a priori, seraient plutôt favorables à la restauration des Bourbons. Mais ils se gardent bien de le dire, et en particulier... Wellington, lorsqu'il remonte en direction du nord, est très prudent à l'égard du duc d'Angoulême. Il ne veut prendre aucune position officielle à l'égard de l'éventuelle restauration des Bourbons. Finalement, le déclic, ce sera le 12 mars, lorsque il y aura le ralliement que l'on a évoqué. Ça, c'est du côté des Anglais. Les Russes, à ce moment-là, ne sont pas du tout favorables à la restauration des Bourbons. Il verrait davantage un Bernadotte monté sur le trône de France. Les Autrichiens, eux, préféreraient une solution qui serait celle d'une régence. On se débarrasse de Napoléon, mais on conserve Marie-Louise comme régente et on conserve donc le roi de Rome comme futur empereur, en tout cas futur souverain de la France. Il n'y a guère finalement que les Prussiens qui pourraient se laisser tenter par l'expérience, et encore, ils ne sont pas véritablement convaincus non plus. La population française, à part dans quelques foyers royalistes, notamment dans l'Ouest, ou dans quelques familles de régions marqués par, par l'idée royaliste, les Français ont oublié les rois. Plusieurs témoignages vont dans ce sens, y compris dans les milieux éclairés d'officiers qui, entendant parler de Louis XVIII, réagissent en se disant « mais de qui nous parle-t-on ? » Ça peut nous paraître aujourd'hui tout à fait surprenant, mais il faut bien se rappeler que l'Empire, c'est une période où sévit la censure. On ne parle jamais des rois de l'ancienne France dans la presse, ou lorsque l'on en parle, c'est pour parler de Louis XIV. Mais Louis XIV est mort en 1715 et il y a peu de chances qu'il puisse concurrencer Napoléon. On ne parle pas des rois et on en parle encore moins dans les écoles, dans les lycées, où l'histoire favorise finalement l'évocation de la construction d'une monarchie française qui débouche sur la dynastie des Bonaparte, sur la quatrième dynastie. Alors on sait qu'il y a eu des rois avant, mais c'est un petit peu comme les rois de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas incarnés et que les rois n'ont pas de visibilité réelle. En tout cas, on ne sait pas qu'il y a des héritiers possibles et un prétendant pour venir remplacer Napoléon. De ce point de vue-là, la propagande napoléonienne a très bien fonctionné. Et c'est ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de soulèvement en faveur des royalistes en 1814 et que la restauration des Bourbons se fera par le biais des alliés qui se rallient à cette idée de confier le pouvoir aux Bourbons. Et à cet égard, donc, le choix de Bordeaux en 12 mars 1814 a été décisif puisque c'est l'élément qui permet de convaincre que la population est favorable aux Bourbons à travers le cas bordelais. Mais je pense que le cas bordelais n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de la France. Bordeaux est dans une situation particulière pour des raisons à la fois historiques et puis liées aussi à l'Empire sur le plan économique, etc. Et enfin, parce qu'on a affaire à des élites qui se rallient aux Bourbons plutôt qu'à l'ensemble de la population.
Alors vous venez d'évoquer une des perspectives qui avait effleuré certains alliés, celle donc d'une régence au profit de Marie-Louise. Peut-on revenir un peu sur l'impératrice, son rôle, qu'a-t-elle fait pendant les derniers mois du régime?
Alors Marie-Louise, l'impératrice des Français, donc qui est devenue, comme vous savez, impératrice du fait de son mariage en 1810 avec Napoléon, Marie-Louise a commencé à jouer un véritable rôle politique dès les lendemains de la campagne de Russie. En principe, la Constitution prévoyait, la Constitution de l'an 12, la Constitution qui fonde l'Empire, prévoyait qu'il pourrait y avoir une régence en cas de défaillance du souverain, mais étaient exclues de la régence les femmes. Vieux souvenir lié à la monarchie française qui a conduit à cette exclusion. Et puis, en 1812, Napoléon part en Russie. Il laisse le pouvoir à ses ministres, en particulier à l'archichancelier Cambacérès, qui, lorsque Napoléon était en campagne, jouait en quelque sorte le rôle de chef d'État bis ou de premier ministre, si vous voulez. On sait ce qu'il est advenu en 1812. Pendant que Napoléon est en Russie, un général malais laisse penser qu'il est mort. Bon, après tout, ça, c'est pas un véritable problème. Mais surtout, il explique que Napoléon mort, il faut créer un gouvernement provisoire et donc modifier la Constitution. Alors qu'il y a des institutions qui prévoyaient qu'en cas de mort de Napoléon, en cas de décès de l'empereur, c'est son fils, héritier naturel, le roi de Rome, qui aurait dû lui succéder. Et donc, l'empereur mort, on aurait dû crier « Vive l'empereur !» comme on le faisait dans la tradition de la monarchie française. Rien de cela ne se passe. Et lorsqu'il revient en France, Napoléon décide donc d'instituer une régence en faveur de l'impératrice, ce qui sera effectif au moment de la campagne de 1813, et à nouveau en 1814, lorsqu'il quitte Paris le 25 janvier 1814, il confie la régence à Marie-Louise, mais il lui a donné en quelque sorte un point d'appui, puisqu'il a nommé son frère Joseph lieutenant-général. Choix un peu étrange quand on y songe. Joseph, c'est celui qui vient d'être piteusement bouté hors d'Espagne et a dû revenir donc à Paris après une brouille assez longue avec Napoléon. Les relations entre les deux frères depuis 1809 se sont dégradées, et pourtant c'est vers Joseph que se tourne Napoléon, Marie-Louise sa femme, logique, institutionnelle, Joseph. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph est son frère aîné et qu'au moment de la crise, qu'il ne sait pas encore être la crise finale, mais qui est la plus grave crise qu'il ait connue depuis qu'il est au pouvoir, au moment où cette crise se développe, eh bien, il se tourne, je dirais, vers ses fondamentaux, la famille, et en particulier son frère aîné, parce qu'il est sûr qu'au moins, lui, ne le trahira pas. Pour Marie-Louise, je reviens à Marie-Louise, pour Marie-Louise, eh bien, elle va jouer le rôle de régente, c'est-à-dire qu'elle organise le pouvoir autour d'elle pendant que Napoléon est en campagne, mais la liaison est permanente entre Napoléon, Marie-Louise, Napoléon, Joseph et même Napoléon Cambacérès. Tous les actes qui sont décidés à Paris le sont sous la surveillance en quelque sorte de Napoléon, mais il y a quand même des décisions qui seront prises sans que Napoléon les avalise, et en particulier la décision finale qui est le choix de Marie-Louise et des ministres de quitter Paris pour éviter que Marie-Louise, l'impératrice, et l'héritier ne soient, le cas échéant, faits prisonniers par les alliés. Choix qui a été considéré comme un choix très déplorable, au sens où, vis-à-vis de l'opinion publique, dont on parlait à l'instant, cela ne donne pas une bonne image. Si le gouvernement s'en va, c'est que Paris est perdu. Si Paris est perdu, si Paris est conquis par les troupes étrangères, cela laisse aussi penser que le pouvoir de Napoléon est très fragilisé. Et donc Marie-Louise ira du côté de Blois et le gouvernement va s'y installer. Et bon, l'issue, nous la savons, mais peut-être on va y revenir dans un instant.
Oui, donc la situation se dégrade de manière extrêmement rapide. De plus en plus de pression s'exerce sur l'empereur pour qu'il renonce, qu'il abdique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements, sur le rôle de cet entourage dans le processus final?
Alors peut-être un mot avant de revenir sur le rôle de l'entourage, sur les événements, sur le plan militaire. Je ne vais pas refaire la campagne sur le plan militaire, mais à mon avis, il y a un élément qui est important à prendre en compte, puisqu'on évoquait Bordeaux. Le choix de Bordeaux en faveur des Bourbons et le déclic que cela représente pour les Alliés. Eh bien, ce déclic, il se traduit sur le plan diplomatique et sur le plan militaire de la façon suivante. Sur le plan diplomatique, 7 jours plus tard, le 19 mars, les Alliés décident de rompre les négociations de paix qui avaient été engagées à Châtillon avec le représentant, dont on va reparler dans un instant, de Napoléon, son ministre des Relations extérieures, Caulaincourt. Ces négociations avaient débuté début février. Elles achoppent pour diverses raisons. Bien sûr, les deux parties ne sont pas d'accord sur la manière dont on doit construire la paix. Mais on sait bien que dans des négociations, on n'est jamais d'accord au départ et que l'objectif des négociations, c'est que chacun arrive en direction du point de vue de l'autre. C'est impossible à ce moment-là, mais c'est impossible aussi parce qu'à ce moment-là, les Alliés se disent que s'ils continuent à négocier avec Napoléon, s'ils obtiennent une paix de la part de Napoléon, ils lui reconnaissent aussi une forme de légitimité et donc ne pourront pas exiger, ou plus difficilement, qu'il quitte le pouvoir. En rompant les négociations avec Napoléon, on ouvre la voie à une autre solution politique. Ça, c'est l'élément diplomatique. L'élément militaire, il est la conséquence directe. À partir du 20 mars, le 20 mars, c'est la bataille d'Arcis-sur-Aube qui va opposer les forces de Schwarzenberg à Napoléon lui-même, des forces austro-russes très supérieures en nombre qui contraignent Napoléon à quitter le champ de bataille et à engager cette nouvelle stratégie qu'il a développée depuis quelques jours, c'est-à-dire d'aller vers l'Est pour récupérer des forces qui étaient consignées dans les garnisons que j'ai évoquées en commençant et avec elles pouvoir revenir, prendre à revers les troupes coalisées et les défaire, les vaincre. C'est l'ultime sursaut militaire qu'espère remporter Napoléon. Mais les troupes coalisées ne vont pas lui en laisser le temps, puisque contrairement à ce qu'il pensait, c'est-à-dire une poursuite de la part de ses troupes en direction de Napoléon. La logique eût voulu que Schwarzenberg poursuive Napoléon. Schwarzenberg va laisser Napoléon partir à l'est. Il lui laisse il y a simplement un petit corps d'armée autrichien qui va le suivre. Le gros des forces se dirige vers Paris et épaulé par l'armée de Blücher. En 10 jours, les armées coalisées sont aux portes de Paris et là aussi, le surnombre va faire que Paris est obligé de capituler. Je ne vais pas entrer dans le détail de la capitulation, mais on peut parler de trahison comme l'ont fait certains à propos des élites qui entourent Napoléon. La première réalité, elle est là, c'est le surnombre créé par ce dispositif qui est lié à ce que Schwarzenberg, en particulier les Autrichiens, à partir du 19-20 mars, ont décidé de mettre un terme au pouvoir de Napoléon et veulent en finir et veulent aller jusqu'à Paris. Et donc, vont y parvenir. Ensuite, interviennent des éléments qui sont liés au choix que font un certain nombre de membres de l'entourage de Napoléon. Et en premier lieu, Talleyrand. Talleyrand n'a pas de rôle officiel dans l'Empire, ou si peu, en 1814. Il n'est que vice-chancelier. Vice-grand-électeur. Fouché, en parlant de Talleyrand, aurait dit que c'était le seul vice qui lui manquait. Vice-grand-électeur, mais il n'a pas de part au gouvernement. Simplement, il est associé aux réunions du Conseil. Et lorsque le gouvernement, les ministres, l'archichancelier Cambacérès décide de quitter la capitale, lui se garde bien de partir, il reste à Paris, car il sait qu'il pourra jouer un rôle dans les jours à venir. En effet, depuis plusieurs mois, et Napoléon est parfaitement au courant de la chose, Talleyrand complote, il réunit dans son salon un certain nombre de personnalités qui sont prêtes à trouver une autre solution politique, et on pourrait dire que le gouvernement provisoire qui se met en place au lendemain de l'abdication de Napoléon, et même avant d'ailleurs, ce gouvernement provisoire, il a déjà été préparé dans une semi-clandestinité, parce que tout le monde est au courant, le ministre de la police Savary le sait, Napoléon le sait, mais personne n'a osé agir, personne n'a osé prendre la décision qui, si Napoléon voulait empêcher Talleyrand de nuire, il aurait dû prendre, c'est-à-dire faire arrêter Talleyrand. Talleyrand va donc jouer un rôle décisif dans le processus conduisant à l'abdication de Napoléon. C'est lui qui a organisé sur le plan politique l'après-Napoléon. C'est lui qui va engager les pourparlers avec les souverains alliés et en particulier le tsar qui arrive avec l'armée le 30 mars 1814 et qui sera reçu chez Talleyrand, qui passe ses premiers jours chez Talleyrand. Donc, les négociations vont aller rapidement et Talleyrand donc joue un rôle essentiel dans la décision de capitulation de la capitale, les alliés entrant le lendemain dans la ville. Et puis, il joue aussi un rôle décisif en convainquant l'ensemble des élites politiques de voter, la déchéance de Napoléon, conduisant finalement Napoléon à l'abdication. C'est une condition sine qua non pour régler le sort de la France. Le 6 avril à Fontainebleau, Napoléon se décide à abdiquer. Entre-temps, il a appris aussi la défection, je préfère ce terme à celui de trahison des maréchaux, dans la mesure où il s'agit plus d'un retrait sur le plan militaire de maréchaux qui ont pris conscience à ce moment-là que c'est leur point de vue, que tout était perdu, qu'il n'était plus possible de renverser la situation militaire. Un deuxième acteur intervient alors, proche de Napoléon, qui lui ne le trahit pas au sens où on l'entend communément, c'est Caulaincourt, son ministre des Relations extérieures, qui sera l'envoyé spécial, en quelque sorte, auprès des souverains coalisés, et notamment auprès du tsar. C'est lui qui va négocier les conditions de l'après-Empire, qui va négocier ce qui sera le traité de Fontainebleau, donc qui prévoit que Napoléon on deviendra simple souverain de l'île d'Elbe, mais en conservant tout de même son titre d'empereur, en obtenant une pension de l'État français et quelques garanties aussi pour ses frères et sœurs. Alors Caulaincourt joue un rôle qui est d'autant plus important qu'il est ministre des Relations extérieures. Il connaît évidemment les principaux parties prenantes, et notamment le tsar, puisqu'il faut se souvenir que Caulaincourt a été ambassadeur à Saint-Pétersbourg entre 1807 et 1811, et qu'il a été aussi celui qui a conseillé à Napoléon de ne pas aller en Russie. Ce que tout le monde sait, en tout cas ce que le tsar sait, ce qui favorise les relations entre les deux hommes, même si la relative amitié qui avait été nouée au temps de l'ambassade n'est plus aussi présente en 1814.
Une dernière question pour ma part. 2014, c'est donc le bicentenaire de la chute du Premier Empire. C'est aussi le centenaire de la Première Guerre mondiale. Y a-t-il eu, en 1914, la France est envahie, notamment par les Allemands, souvenir de Blücher. Y a-t-il eu des échos au moment de la Première Guerre mondiale avec les événements du printemps 1814?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis un peu intéressé à la commémoration du centenaire. On dit toujours qu'on ne commémore pas les bicentenaires de l'Empire. Ça a été en partie vrai. Cela me semble beaucoup moins vrai pour 1814, dont je trouve finalement qu'il aura été ce bicentenaire beaucoup plus commémoré que d'autres, à partir d'initiatives locales, le plus souvent, dans les différentes régions qui ont été concernées par l'événement, mais aussi par toute une série d'expositions et des relais médiatiques modérés, mais enfin qui ne sont pas si négligeables. Surtout si l'on compare avec 1914, on imagine toujours que les centenaires ont été beaucoup plus commémorés que l'ont été les bicentenaires, ce qui est totalement faux, parce que d'abord la mode des commémorations est récente et qu'on ne commémorait pas autant il y a un siècle qu'on commémore aujourd'hui. Aujourd'hui on commémore... Ça veut dire presque tout et n'importe quoi, mais bon, ça c'est dingue. En tout cas, on commémore beaucoup, on commémorait beaucoup moins. Et je me suis évidemment intéressé à ce que l'on disait de la campagne de France en 1914, alors que se préparait quand même la Première Guerre mondiale. On ne le sait pas encore, mais enfin, on voit quand même, il y a des soubresauts, il y a des éléments qui montrent que la situation diplomatique est assez compliquée. Eh bien, c'est un quasi-silence dans la presse de 1914. Il y a de temps en temps un article historique pour rappeler le centenaire, mais n'imaginons pas qu'en 1914, les Français, et c'est vrai aussi dans les commémorations locales, que les Français vont se mobiliser autour du centenaire. En revanche, il y a un élément qui m'a intéressé, c'est que lorsque la guerre se déclare, la comparaison avec Napoléon est faite par les Anglais. Mais qui croyez-vous qu'il compare à Napoléon? Ce n'est pas Poincaré, président français. Non, c'est Guillaume II. Guillaume II qui est accusé de napoléonisme par sa volonté de conquête de l'Europe. Ce qui va faire évidemment bondir les partisans de Napoléon, il en reste encore quelques-uns, les admirateurs de Napoléon, et en particulier Édouard Drillaud, fondateur de la Revue des études napoléoniennes, qui va se lancer dans un plaidoyer en faveur de l'œuvre de Napoléon. J'ai trouvé que cette comparaison montrait aussi finalement le décalage qui pouvait exister. Mais 1914, la République est encore une République récemment installée en France. La crainte d'une restauration n'est pas totalement écartée. Et je vous rappelle qu'en janvier 1914 est né un certain Louis-Napoléon, fils de Victor et de Clémentine. Il naît à Bruxelles, du mariage du prétendant au trône impérial. Louis-Napoléon deviendra le prince Napoléon, mort en 1997, et actuel grand-père, grand-père de l'actuel prince Napoléon.
Bien. Je vous remercie, chers collègues, pour cette présentation.